Cher Jean, c'est avec une grande émotion, bien sûr, que nous sommes rassemblés nombreux autour de toi au jour de ton ordination sacerdotale. Tes chers parents, d'abord. Ta famille est restée pour la plupart, mais tes amis aussi du Vietnam, qui t'entourent de toute leur affection et de toute leur foi. Cette foi si éprouvée de l'Église du Vietnam. Quelle émotion d'entendre résonner dans ces voûtes de la cathédrale de Bayonne la bonne nouvelle de l'Évangile proclamée dans ta langue. L'Évangile qui, depuis la Pentecôte, peut être proclamé dans toutes les langues. Parce que le Seigneur nous a envoyé annoncer l'Évangile à toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce mandat missionnaire de Jésus qui s'accomplit, attesté de cette manière, comme vrai, comme vivante. Que de chemin parcouru, n'est-ce pas? Longue route semée d'épreuves pour répondre à cet appel qui avait résonné dans ton cœur. Et toi aussi, tu peux dire, comme Paul, dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, « Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Qu'est-ce que tu dois à tes parents et à ta famille qui t'ont porté dans la foi, qui par grâce m'a appelé? C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes appelés par le Seigneur et non pas par nos mérites. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en toi, dans ton cœur, cette révélation qu'il te donne mission maintenant d'annoncer aux nations païennes. Oui, nous le souhaitons qu'un jour, quand ce sera possible, tu puisses retourner dans ton pays, où tant d'hommes et de femmes attendent encore l'annonce de cette bonne nouvelle du salut. Pour l'heure, et sans doute pendant quelques années, tu vas exercer ton ministère dans notre diocèse de Bayonne, l'Escariolo-Rhône, qui est ton diocèse. Celui qui t'a accueilli, celui où s'accomplit cet appel qui a résonné dans ton cœur depuis si longtemps et qui aurait pu être étouffé tant de fois par les épreuves que tu auras dû traverser pour venir jusqu'ici. Mais nous sommes dans une situation ici, dans nos pays de vieille chrétienté, 2000 ans de christianisme, comme au temps des apôtres, revenus peut-être d'une certaine manière au paganisme, à la différence près que nous avons déjà reçu l'Évangile, en effet, depuis 2 millénaires, et que nous connaissons, comme disait le cardinal Pierre Heit, un compatriote de notre diocèse, même s'il est béarnais, où nous connaissons une apostasie silencieuse, dans un pays où nous ne risquons pas de perdre notre emploi, ni notre liberté, ni notre vie, comme au Vietnam, et où nous apostasions si facilement notre foi, de manière tranquille. Ce diocèse aura besoin du témoignage de Jean. Il aura besoin de ton témoignage, et à travers ton témoignage, le témoignage d'une Église qui peut être bien considérée encore comme une Église martyre, témoin dans la souffrance, voire dans la persécution. Vois comme ces textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre résonnent particulièrement dans nos cœurs alors que nous célébrons ce soir, déjà la messe de la vigile, de la solennité des apôtres Pierre et Paul, en conclusion même de cette année Saint Paul qui a mobilisé tant de fidèles dans notre diocèse pour redécouvrir cet élan missionnaire qu'il a déployé à travers toute sa vie d'apôtre. Cette première lecture d'abord, cet infirme de naissance que l'on amenait chaque jour à la belle porte du temple pour mendier sa subsistance, et qui n'avait qu'une espérance, qu'un espoir, trop petit sans doute, de revenir chez lui le soir avec quelques piécettes pour survivre. Et voilà que Pierre et Jean s'approchent, et que lui dit Pierre, « Regarde-moi bien, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche !» Et d'un bond, il se leva, et il marchait, et il entra dans le temple avec Pierre et Jean pour louer Dieu. Tout porte à croire que cette guérison qu'il obtient de la part de Pierre, au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est un trésor que tu porteras dans ton ministère auprès des hommes de notre temps qui viendront à toi, ou vers lesquels tu iras toi-même comme un apôtre. Tout porte à croire que cette guérison n'est pas qu'une guérison physique, mais qu'elle est une guérison du cœur qui redonne à cet homme non seulement l'usage de ses jambes, lui qui était infirme de naissance, mais qui guérit son cœur, qui lui redonne sa dignité d'homme créé à l'image de Dieu. Et je n'en veux pour preuve que cette louange qui jaillit spontanément de son cœur, et il entrait dans le temple à l'heure de la prière avec Pierre et Jean, et il louait Dieu. Qu'attendent les hommes et les femmes de notre temps d'un prêtre, ceux que tu côtoieras quotidiennement dans ton ministère, et tu seras attentif à leurs besoins les plus concrets sans doute, leurs espérances humaines, légitimes sans doute, mais trop humaines, tels qui recherchent un emploi, tel autre qui légitimement voudrait une augmentation de salaire pour faire vivre sa famille. Tu sauras susciter au sein de ta communauté des fidèles généreux et solidaires qui apporteront des solutions humaines, mais ça n'est pas ta mission. Tu n'auras pas ni or ni argent à donner pour satisfaire des espérances légitimes mais trop humaines. C'est la grande espérance que tu es censé apporter au monde à travers ton ministère, sans or ni argent, mais ce que tu as, tu devras le donner. Au nom de Jésus-Christ, tu pourras le dire tant de fois, en particulier dans l'écoute attentive des fidèles qui viendront à toi, spécialement dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Lève-toi et marche, et tu auras gagné. Lorsque tu auras rendu à l'homme sa dignité, au point qu'il pourra entrer dans le temple et louer Dieu, comme cet infirme de la belle porte, guéri par la parole de Pierre, tu seras d'abord l'homme de la prière de l'Église, que l'on appelle même la liturgie, car c'est dans la liturgie que l'homme voit se révéler cette grande espérance pour laquelle il est fait. C'est là qu'il rencontre ces réalités ultimes que le monde enfermait bien souvent dans les contingences pesantes, dans une culture marquée par ce que Jean-Paul II appelait un humanisme immanentiste fermé à la transcendance, qui vole à l'homme son horizon ultime, le but final de son existence, ou mieux que dans la liturgie, la chape de plomb qui enferme l'homme désespérément dans la contingence, est brisée. Le Seigneur lui-même, dans son mystère pascal, dont la liturgie doit être le signe éloquent au milieu des hommes, a ouvert une brèche à travers les enfermements des hommes, en étant victorieux à jamais du péché et de la mort, donnant accès à la vie éternelle, au royaume des cieux, dont tu devras être le témoin privilégié par ton ministère, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie, dans laquelle, comme disait Benoît XVI, dans son encyclique, son exhortation « Sacramentum Caritatis », le sacrement de l'amour, nous goûtons l'accomplissement eschatologique, c'est-à-dire relatif aux réalités ultimes de notre vie. Accomplissement eschatologique de tout homme et du monde entier en chemin vers le royaume. Sois un homme attentif à la liturgie de l'Église. Ne cherche pas à l'adapter au goût du monde et au goût des hommes pour les enfermer un peu plus dans les contingences pesantes de leur vie. Fais-les entrer dans le mystère pascal, par lequel seul nous pouvons passer de ce monde au Père. Comme disait le cardinal Newman, les gens me demandent pourquoi aller à l'Église, pourquoi observer ces rites et ces cérémonies insolites et si décalé par rapport à notre vie. Tout simplement parce que nous sommes appelés un jour, au jour de notre mort, à un changement d'état. Nous ne sommes pas faits décidément pour rester là, mais pour un au-delà dans lequel le Seigneur nous conduit et nous prépare par le mystère de la liturgie. Et comment est-ce que tu donneras aux hommes d'aujourd'hui cette grande espérance qu'ils demandent parfois de manière paradoxale, sinon par la parole dont tu seras porteur et que tu as annoncé à toute la création, cette parole qui est bonne nouvelle pour aujourd'hui comme hier, cet évangile que tu n'as pas reçu des hommes, qui n'est pas une invention humaine à réinventer chaque jour, mais que tu as reçu par révélation dans ton cœur lors de ta première rencontre avec le Christ, car on ne devient pas chrétien autrement que par une rencontre avec un événement, avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive vers le but final qu'il est en lui-même, cette parole qui a résonné dans ton cœur, que tu as approfondie tout au long de ton initiation chrétienne avec tes catéchistes, tes prêtres, dans ton diocèse d'origine, au Vietnam, que tu as approfondie ici avec tes formateurs au séminaire de Toulouse, que tu as approfondie dans tes paroisses où tu es passé, la dernière à Orthès, avec les prêtres et les fidèles qui t'ont accompagné jusqu'à ce jour. Cette révélation que tu dois proclamer, d'autant plus que tu attestes par ta décision la transformation de ta vie, qu'elle est vraie, cette parole, et qu'elle est capable de donner la grande espérance aux hommes et aux femmes de notre temps. Si elle ne t'avait pas saisi, aurais-tu eu le courage de quitter ton pays, de traverser les océans et de venir jusqu'ici, soumis à la Providence, pour trouver un jour un évêque qui t'accueille au séminaire, mon prédécesseur pour qui tu prieras beaucoup aujourd'hui, et un évêque qui a la grâce aujourd'hui de t'ordonner et de faire une première ordination dans sa vie d'évêque et d'accéder ainsi à la paternité que le Seigneur lui a confiée à travers son ordination épiscopale. Cette révélation que tu as reçue dans ton cœur et le souci de la confronter toujours dans l'Église à la tradition de tes pères. Regarde Paul, après avoir fait l'expérience de cette révélation du Christ, de cette bonne nouvelle de l'Évangile qui a transformé sa vie, il est monté à Jérusalem, il est allé voir Pierre, sur laquelle Jésus a bâti son Église, et il est resté 15 jours avec lui. Vérifie toujours ton expérience de la parole du Christ au contact de l'Église, et en particulier au contact de Pierre, son successeur sur la terre, qui a reçu la mission de nous affermir tous dans la foi que nous avons reçue comme un don de Dieu. Prière, annonce de la parole, Voilà le cœur même du ministère apostolique que nous avons tous, nous les prêtres, à approfondir de nouveau pendant cette année sacerdotale qui nous est donnée comme un don. Prière, c'est-à-dire liturgie, annonce de la parole, le cœur même du ministère apostolique à tel point que les premiers apôtres eurent besoin d'instituer 7 hommes, 7 diacres pour les soulager du service des tables, mais tout en gardant toujours une posture de service, car le diacre que tu es encore, les diacres qui m'entourent aujourd'hui savent que le diaconat est cette posture de service de tout ministre ordonné, qu'il soit diacre, qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, et je porte la dalmaticelle, non pas comme une coquetterie liturgique, mais comme le signe que tout ministre ordonné doit être identifié à son ministère et vivre sa mission comme un service, non pas comme une fonction extrinsèque à sa personne, mais comme un service ancré dans ta personne, configuré ontologiquement au Christ serviteur. Mais ton service, c'est de présider la liturgie et d'annoncer la parole de réconciliation et de salut à tous les hommes. Il faut terminer par ce dialogue émouvant que nous venons de réentendre entre Jésus ressuscité et Simon-Pierre, qui se fait rappeler de manière si discrète, mais si significative, son triple reniement, c'est-à-dire sa faiblesse, sa fragilité. À travers ce triple questionnement de Jésus qui t'est adressé à toi d'une manière tout à fait particulière en cet instant. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Et réponds avec Simon-Pierre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et si Jésus, dans les 2 premières questions, utilise un mot amour, qui est un amour divin, désintéressé, mais tellement parfait et tellement au-dessus de nos forces, dans sa 3e question, comme dans chacune des réponses de Pierre, est employé le mot qui signifie l'amour d'amitié. C'est l'amitié avec le Christ qui est la source même de la mission qu'il te confie aujourd'hui. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi. Ce ne sont jamais les hommes qui plébiscitent le prêtre. C'est le Christ qui t'a appelé, qui t'a choisi, parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie pour toi, et tu le sais bien, toi qui as conscience, comme moi, de ta fragilité et de ta faiblesse. C'est lui seul qui t'envoie en mission. C'est lui seul qui te confie cette révélation pour l'annoncer aux nations païennes. C'est pourquoi chaque jour, tu approfondiras cette intimité, cette amitié avec le Christ, car c'est lui qui chaque jour t'enverra en mission. Ces longues heures auxquelles tu t'engages quotidiennement à vivre, à te tenir en présence du Christ, dans l'Eucharistie quotidienne, dans la liturgie des heures, dans le temps d'oraison ou d'adoration eucharistique, mieux encore, où tu cultiveras cette amitié, cette intimité, où tu trouveras la source même de ta mission, si tu veux que dans ton ministère, par ton ministère, la Pentecôte d'amour, prédite par Jean 23 au moment du dernier concile, s'accomplisse dans la vie de l'Église et dans la vie du monde. Il faut que ton ministère, comme le ministère de tous les prêtres, de tous les fidèles, comme la mission de toute l'Église, soit moins essoufflé par les activités et davantage consacré à la prière. Les fidèles aiment voir leurs prêtres se tenir devant Dieu en prière pour les entraîner et rendre crédible le message qu'ils recevront de toi. Amen.